Le thème ce matin, c'est choisis la terre promise. Choisis la terre promise. Alors, ça nous emmène, ça vous fait penser à quoi ? Ben, ça vous fait penser au peuple de Dieu, aux Hébreux. Alors, on connaît tous l'histoire. Joseph, haut dignitaire, le plus haut dignitaire dans le pays de Pharaon, juste après Pharaon, d'accord ? Et puis, il est en Égypte. Il y a la faveur de Dieu sur lui, sur le peuple. Il se multiplie, voilà, il se passe des belles choses. Et vraiment, le peuple de Dieu est en grâce vis-à-vis du pays d'Égypte, d'accord ? Pharaon les bénit, il y a toute une bénédiction qui se met en place. Et à un moment donné, eh bien, le Pharaon change. Et là, tout change. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos petits Hébreux sont mis en esclavage. Opprimés, souffrances, difficultés, tout change. Mais ils continuent de se multiplier, ça devient un grand peuple. Vous me suivez jusque-là, on est toujours, vous connaissez cette histoire ? Donc ce pharaon qui déteste les Israélites, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il les opprime. Vraiment, un esclavage, il les utilise pour faire toutes sortes de choses. Et eux, bien, à un moment donné, ben, ils se souviennent des promesses de Dieu et ils crient à Dieu. Voilà, Dieu, est-ce que tu es là ? Et on entend, la Bible nous dit, voilà, je vais chercher Moïse, je vais utiliser Moïse et il va sortir mon peuple du pays d'Égypte. Ça roule ? Alors, ce peuple sort du pays d'Égypte. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, on a entendu parler, Christ qui nous parlait de Dieu qui trace un chemin. Quand Moïse frappe la mer se... Voilà, Dieu. Il commence à connaître le Dieu du miraculeux. Lorsque Dieu vient les chercher au travers de Moïse, il y a les 10 plaies. Voilà, les 10 plaies, la main de Dieu qui s'abat sur le pays d'Égypte. Et puis, ils découvrent leur Dieu, ils voient leur Dieu, leur grand Dieu. Et là, ils voient que leur Dieu est un Dieu puissant. Il se révèle comme un Dieu puissant, glorieux, qui monte sa main, qui se manifeste, qui parle à Moïse. Il y a vraiment tout un contexte. Donc, ils voient ces dix plaies. Il faut savoir qu'ils étaient là depuis plus ou moins entre 400 et 430 ans en Égypte. Et puis, là, eh bien, Dieu va les faire sortir. Ils traversent la mer Rouge et Moïse les emmène. Et l'objectif, c'est d'aller où ? En terre promise. C'est vrai ou c'est pas vrai ? L'objectif, c'est d'aller en terre promise. Sur ce chemin, je vous passe tous les détails, ils voient la manne, ils voient les cailles, ils voient de l'eau amère qui est transformée en bonne eau, ils voient des peuples qui reculent devant eux, ils voient vraiment la main de Dieu. Il se passe des choses folles. Tout ça dans les 3 premiers mois, ensuite 9 mois plus tard, jusqu'au moment où on arrive à Deutéronome, et c'est là le sujet de ma prédication, Deutéronome 1, versets 6 à 8. Donc souvenez-vous, ils ont vécu déjà beaucoup de choses au moment où on lit ce verset. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Donc ils sont déjà arrivés à Horeb, ils sont déjà bien descendus. En disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. N'enlève pas le verset. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Première leçon, ce que les décisions et les choix et les promesses qui peuvent avoir été déposées sur tes parents, tu peux encore en être bénéficiaire. Et là, Dieu il dit, maintenant il est temps. C'est le temps d'y aller. Ils ont passé 14 mois à se promener là. Et puis ils ont vu la main de Dieu. Et Dieu il dit, maintenant, allez, partez, prenez possession. C'est clair, c'est un ordre clair. C'est maintenant le temps où il faut prendre la terre promise. Ça va ? Et il s'appuie sur quoi ? Sur une promesse. Et ici, la promesse est très claire. C'est maintenant le moment d'y aller. Donc, il s'appuie sur la promesse de l'Éternel. Le peuple se met en marche. Et puis, encore une fois, au moment où il se met en marche à ce niveau-là, il y a quoi ? Il y a une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Encore une fois, Dieu se manifeste. On voit Dieu clairement à l'œuvre. Dieu est avec eux. Il leur donne une promesse. Moi, si Dieu pouvait dans ma vie, à chaque fois qu'il me promet quelque chose, mettre une petite colonne de feu devant moi, ça m'irait bien. Ça me conforterait. J'aurais confiance en moi. Je me dirais, c'est bon, Dieu est avec moi. Il y a un feu devant moi. Rien ne peut m'arriver. Et eux, c'est ce qu'ils vivent. Ils le vivent réellement, concrètement. C'est incroyable. Un peuple de centaines de milliers de personnes vivent ça. Alors, là, ils se mettent en marche et ils vont arriver à cette ville appelée Kadès. Kadès, c'est la ville qui est à la frontière de la terre promise. Dieu les amène aux portes de la terre promise. Il les amène et voilà, il les met là. Et voilà, la terre promise, elle est juste là. Il les amène aux portes de la terre promise. Sur quelle promesse? Sur la promesse qui dit « Allez, partez, prenez possession ». Et il les emmène juste à la frontière. Et il dit maintenant, vous allez envoyer 12 espions. 12 espions, on va le lire. Nombre 13, verset... Oui, nombre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voyez bien, c'était des chefs, c'était des leaders, c'était des hommes qui avaient vécu auprès de Moïse quelque part et qui connaissaient très bien ce que Dieu avait fait auparavant. Et il dit maintenant, tu vas prendre des chefs, des gens qui me connaissent bien, tu les envoies voir ce pays. Et ça, c'est une déclaration que Dieu donne. Il dit maintenant, vous allez aller voir ce pays, mais c'est une déclaration pour prendre le pays. Allez voir, mais il vous appartient. Vous me connaissez, vous savez qui je suis, vous savez de quoi je suis capable. Alors allez voir maintenant. Et quand vous allez revenir, vous allez encourager mon peuple. C'est ça l'objectif. Mais tout ne se passe pas vraiment comme ça. On va lire. Là, ils reviennent. Nombre 13, versets 27 à 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Alors là, on a la première partie de la promesse de Dieu, qui allait les envoyer dans un pays où vraiment il y aurait tout ce dont ils ont besoin. Et puis là, ils reconnaissent ça. C'est vrai que ce pays, il est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, vous avez un petit mais. Et c'est là où tout déraille. C'est ce petit mais où ça change complètement la donne. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. C'est tout?
Ouais. Ah,
j'ai pas mal calculé mon coup. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc on a bien la confirmation qu'ils sont bien au bon endroit. Dieu les envoie. Ils envoient les espions. Et là, c'est confirmé. On est, ça c'est la terre promise. C'est l'endroit que Dieu nous donne. Mais, il y a des gens très forts là-bas. C'est un pays où rien ne manque. Alors, ça, c'est le rapport de 10 des espions. Et on va voir au verset nombre 13, verset 30 à 33, un autre rapport de deux autres. Caleb fit taire le peuple. Quand Caleb entend ça, il entend les 10 espions dire, voilà, tu comprends, c'est beau, il y a des belles choses, c'est vraiment le pays que Dieu nous donne, mais il y a des difficultés. Et vous avez Caleb qui se révolte là, il dit attention. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et là vous avez un Caleb. Ah ! Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors ils sont partis pour encourager le peuple. Pour dire, c'est vraiment cette terre-là. Vous savez, avant de déplacer une foule comme le peuple d'Israël, ben vous vous assurez que c'est bien là. Alors eux, ils y vont pour dire, c'est bien là, on est arrivé, on y va, Dieu est avec nous, il y a les colonnes de fumée avec nous, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a la gloire de Dieu. C'est parti! Et eux, ils reviennent, et pendant le chemin, c'est long le chemin, tu comprends, Antonio, c'est long. Hein. Pff, Moïse, où est-ce qu'il nous envoie? Là, ils ont commencé à murmurer. Tu comprends, il nous envoie où celui-là? Et puis, tu avais Caleb. Non, c'est bon, on y va. Avec Josué. Josué, il se laissait encourager par Caleb à l'époque. Hein. Ce n'était pas le Josué d'après. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à explorer. Et puis là, Non, mais regarde cette ville, elle est grande, c'est fortifié. Tu penses que Dieu est capable de faire quelque chose là? Et ça a commencé des questions comme ça, des questions intellectuelles, des raisonnements humains. Et puis, ça continue. Mais regarde comme ils sont grands, ceux-là, mon petit à côté de, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils reviennent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent ça à une centaine de milliers de personnes. Ils ont communiqué leur crainte. Ils sont allés pour être encouragés, ils sont revenus avec la crainte, et ensuite ils ont communiqué cette crainte. Mais il y a Caleb dans tout ça. Caleb dit non, on y va, on s'en parle. Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Lui, il a vu ce pays au travers de la promesse de Dieu. Lui, il était focalisé sur le lait et le miel. Il était focalisé sur, voilà, vraiment, ça c'est la promesse de Dieu. Dieu sera avec nous. Alors, vous savez, là, c'est facile. Quand on lit ça, on va dire, Caleb, c'est bien, Josué, c'est bien, les autres, vous êtes nuls. Facile. Quand on lit ça, dire ça, on est des bons chrétiens, oh, on a un problème ici. Ah, c'est fait exprès, pardon. J'avais cru que j'étais en train de casser le... Donc, on a... J'ai perdu mon truc, maintenant. Oui, c'est facile de dire que voilà, ils n'ont pas bien fait, les dix n'étaient pas bien, voilà, ils ont eu peur, oh, pauvre petit gars, vous avez eu peur, fallait pas avoir peur, fallait suivre Dieu, c'est quand même simple de suivre Dieu quand même, il y a la colonne de fumée, tu suis la colonne de feu, t'as les prodiges, mais vas-y, on part, c'est facile, on peut raisonner comme ça. Mais il faut imaginer qu'on parle d'un peuple qui était en esclavage pendant combien d'années? Des gens qui étaient blessés, qui avaient été touchés, leur corps était marqué, c'est des gens qui ont souffert. Et là, il faut comprendre l'homme. On est fait corps, âme, esprit. Ton corps peut sentir la douleur. Si je te frappe, t'as mal. Première fois, tu vas dire, bon, voilà. Deuxième fois, tu vas m'éviter. Troisième fois, tu ne m'approches plus. Soit tu fuis, soit tu réponds. On a des automatismes comme ça. Eux, ils ont été, quand ils étaient opprimés, c'était à coup de fouet. Dieu les sort de là. Leur objectif, ce n'est pas de retourner dans un pays où les mecs sont plus forts et vont leur faire la même chose. Donc automatiquement, eux, quand ils voient les forteresses, quand ils voient les Goliaths, mais non, ils ont peur, ils ont la crainte. Mais je ne veux pas revivre ce que nos ancêtres ont vécu, ce que moi j'ai vécu. C'est humain. Alors, le corps subit les douleurs, mais ton âme subit la souffrance. L'âme, c'est le centre de tes affects, de ta volonté et de tes pensées. Tes pensées, c'est quoi? Bien, c'est ton raisonnement, c'est tout ce qui est intellectuel, ta compréhension, ta connaissance. Les affects, c'est tes émotions, c'est ton ressenti, c'est toutes ces choses-là. Et ta volonté, c'est là où c'est le centre décisionnel. Tu prends une décision en fonction de tes affects et en fonction de ta pensée. Alors, eux arrivent là, déjà qu'ils n'étaient pas contents en chemin. Et puis, ils arrivent sur place, et là, c'est la catastrophe. Ils sont forts, ils sont grands, il y a des forteresses. Non, c'est pas pour moi, vous comprenez. Moi, je ne retourne pas là-bas. Moi, je préfère aller en Égypte. En Égypte, je sais ce qui m'attend. Par contre, là, je ne sais pas ce qui m'attend. Eux, ils sont très grands. Ils sont plus grands que les Égyptiens. Vous voyez tout ce qui peut tourner dans nos têtes. Et ça, c'est ce qui tourne dans leurs têtes. Parce qu'ils sont humains comme toi et comme moi. Et face à la difficulté, il y a une réaction. Ça roule? Mais vous avez Caleb. Et lui, Caleb, il est fixé sur la promesse. Fixé sur la promesse. Notez bien que Dieu les amène aux portes de la terre promise et il dit maintenant, regardez, vous avez un aperçu de ce que vous pourrez avoir. Vous avez l'aperçu, regardez, un panorama. Là, il y a le miel, là, il y a les difficultés. Il vous amène et dans vos vies, Dieu vous amène aux portes de la terre promise. Sa promesse reste la même. Mais il dit maintenant, tu as besoin de faire un choix. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu mets ta foi en moi? Est-ce que tu crois toujours en moi? Moi, je suis toujours le même. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu discutes? Est-ce que tu as peur? Est-ce que voilà, c'est pas comme avant, je maîtrise pas trop, mon raisonnement fait que, et j'arrive pas à me positionner. Mais Dieu, il attend à ce qu'il puisse se positionner là. Et souvenez-vous, on a bien dit, c'est le jour de la promesse. C'est le temps de la promesse. Dieu a dit, allez monter, emparez-vous. Il faut qu'ils aillent. C'est le temps où Dieu veut leur donner la terre promise. Après 14 mois, et là, ils reviennent. Le peuple est pollué par tout ce raisonnement intellectuel. Mais ils sont grands, mais ils sont forts. Les villes sont fortifiées. Comment on va faire? On n'a pas de stratégie, tu comprends? Ils ont enlevé Dieu de l'équation. Ils ont enlevé la puissance de Dieu de l'équation et ils ont gardé leur système de pensée intellectuelle bien français. Sauf que là, c'est les Hébreux. Ça marche? Ils ont enlevé Dieu de l'équation. Et les 10 espions ne reflètent pas correctement ce qu'ils ont vu. Ils voient avec les yeux charnels. La crainte, elle a été contagieuse là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu dit, c'est pas grave. Eh bien, maintenant, vous allez faire un petit tour. Et là, ils sont repartis pour 38 ans dans le désert. 38 années dans le désert. 14 mois, Dieu dit, c'est bon. Eux, à cause des craintes du passé, à cause du passé, ils disent, non, on ne peut pas. Ils ont même dit, imaginez ce qu'ils ont fait. Ils avaient tellement peur qu'ils ont voulu destituer Moïse. Dire, Moïse, t'arrête là. Ils vous ont voulu lapider Josué et Caleb. Et ils ont dit, on retourne en Égypte, construire des pyramides. Vous imaginez le truc, c'est fou quand même. Alors que la main de Dieu est sur eux et est avec eux, ils font complètement demi-tour et leur choix fait qu'ils sont limite en train de se dire qu'ils vont retourner en esclavage. Qu'ils seraient mieux là-bas. Impressionnant. Mais ça, c'est l'homme. Je suis comme ça, t'es comme ça. Ils ne sont pas mieux que nous, on n'est pas mieux qu'eux. 38 ans. Et alors, 38 ans, ils se promènent. Voilà, il se passe beaucoup de choses, on ne va pas raconter les 38 ans. Et puis, quelque part, c'est comme si Dieu a dit, voilà, vous allez aller marcher dans votre désert et moi, je vais attendre une génération capable de venir saisir la terre promise. Et alors, on dit que toutes ces personnes qui ont résisté à la promesse n'ont même pas vu la terre promise, elles sont mortes dans le désert. D'une manière ou d'une autre. Elles n'ont pas vu la terre promise. Et une fois que la nouvelle génération est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y avait des hommes conquérants. Et Caleb et Josué, eux, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont vu pendant 38 ans. Imaginez Caleb et Josué qui auraient pu dire, mais purée, j'avais vu, il y avait du miel, il y avait tout ce qu'il fallait, ils n'ont pas voulu me suivre. Pendant 38 ans, ils n'ont pas commencé à remuer. Ils ont dit, on va y aller. Ils ont attendu à nouveau le temps où Dieu pouvait dire, viens saisir la terre qui est à toi. La promesse, elle n'avait pas changé, sauf qu'elle a été reportée. Mais Dieu était toujours le même. Ça va? Alors, on peut tirer plusieurs enseignements de ça. Le premier, c'est n'ajourne pas ce que Dieu te demande de faire maintenant. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire tout de suite. Parce que si tu fais ça, tu laisses l'homme charnel prendre le dessus. Et l'homme charnel, lui, il va ailleurs, lui. Lui, il va devant sa télé, il ne va pas vers la terre promise. Vous comprenez? L'homme charnel, lui, il ne faut pas l'écouter. Ça va? Et la Bible dit que Caleb était animé d'un esprit différent. Un esprit différent des 10 autres. Et nous, c'est cet esprit qu'il faut suivre. Alors, c'est quoi la clé? Corps, âme, esprit. Dans ce monde, les gens vivent comment? Je suis quelqu'un d'émotionnel. Si tu me fais du mal, si tu me fais quelque chose, ben je vais prendre les décisions en fonction de ce que tu m'as fait. Je suis intellectuel, je suis un bon raisonneur. Moi, je veux ça. Je vais tout mettre en place pour avoir ça de telle manière. Parce que je raisonne. Je ne vais pas forcément laisser mes émotions prendre le dessus. Moi, je suis quelqu'un de solide. Hein, c'est la raison. Vous voyez, il y a toutes sortes de types de personnes. Et d'autres, c'est je fonce dedans, je fais que foncer dedans, mais je ne réfléchis jamais. D'accord? Et vous pouvez faire un nombre de personnalités énormes comme ça. Mais toi, enfant de Dieu, tu es animé différemment. Tu as toujours ce phénomène de corps, âme, esprit. Jésus était notre exemple. Jésus était parfaitement équilibré. Si vous prenez un cercle, vous tracez 3 traits, il y avait l'équilibre entre ses affects, sa volonté et puis sa pensée. Mais ça était animé par quoi? Par l'esprit extérieur. Et toutes les décisions et les promesses que Dieu a fait spirituellement sur ta vie, il faut que tu puisses prendre une décision qui est quoi? Qui est spirituelle, animée par l'esprit. Parce que si tu prends une décision et que tu prends une position animée par ta chair, ta volonté, ta pensée, ta raison sur quelque chose qui concerne le spirituel, tu retournes dans l'esclavage. C'est un principe biblique très clair, une loi spirituelle. Il faut que l'esprit te pousse. S'il ne te pousse pas et que tu écoutes la chair, c'est ça écouter la chair. Eh bien, tu passes à côté et tu retournes dans le désert. Et le problème, c'est que toi, en tant que chrétien, ben, tu es dans le compromis. Parce que tu te souviens de la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu t'en souviens, ça chauffe en toi, mais tu n'as pas fait le bon choix. Et tu tournes en rond. Et tu dis, mince, Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, ma conscience. Et Dieu, il tape ta conscience. Le Saint-Esprit, il parle à travers ta conscience. Il dit, fais ce choix-là. Et toi, tu dis, non, j'ai peur. Et tu retournes. Et le Saint-Esprit revient vers toi. Il tape ta conscience. Prends une décision. Tu dis, non, j'ai peur. Tu repars. Et ça, c'est un phénomène qu'on vit. Il y a une dualité dans notre être. Il y a une dualité entre notre chair et l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, je dois apprendre à faire taire quoi ? Taire la chair. Je dois écouter l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Chanel, elle a été Caleb un temps dans notre vie. On habitait ici et puis on s'était engagé pour Dieu. Je vous passe tous les détails, machin. Et puis, on s'engage et Chanel me dit, je dis, Chanel, écoute, Esther va arriver, on ne peut pas rester dans cet appartement, ce n'est plus possible. Donc moi, Alexis, un cartésien intellectuel, je dis, écoute, à l'époque, je finissais juste mes études, j'étais même pas en CDI, Chanel travaillait pas. Je dis, on n'aura pas de maison, parce que c'est comme ça. Le monde fait que, eh ben, il faut deux CDI, un minimum de 1000 euros, pour pouvoir envisager peut-être avoir un prêt. Et si tu as ton prêt, bah, tu es parti pour payer pendant autant d'années pour avoir ta maison. Un truc de folie, quoi. Et moi, j'en étais pas là. Et je dis, comment on va faire ? Et moi, je raisonnais. Comment je vais faire ? Et ma tête, elle ne pensait qu'à ça. L'homme spirituel, il était au fond. Et elle me regardait, elle m'insupportait. T'inquiète pas, Dieu va s'occuper de nous. Mais je dis, attends, Dieu, il va construire ma maison. Dieu, il va me trouver un... C'était insupportable. Et puis, je râlais. Et elle, t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de nous. C'est pas vrai. Et puis, elle était Caleb. Elle avait vu la promesse. Elle dit, on ne peut pas. Il faut qu'on habite dans le quartier parce qu'on est engagé dans l'église et on va perdre trop de temps si tu veux aller dans le Pas-de-Calais. Moi, je disais, on va aller dans le Pas-de-Calais. Les maisons sont 35% moins chères. Je dis, moi, je me barre. Moi. S'il faut faire de la route, je fais de la route. Je vais aller près de chez Stacy là-bas. C'est ma belle-sœur. On va se voir et tout. Vous voyez, j'aimais beaucoup la campagne. Mais tout ça, c'était intellectuel. Et elle me dit non. Moi aussi, j'aimerais bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, c'était insupportable. Imaginez le truc. Moi, j'étais dans mon monde. Elle, on n'en parlait pas trop parce que sinon, on se fâchait. Voilà, faut être honnête. Je me fâchais, je râlais. Et puis, j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'ai peur, j'ai la crainte. Je ne crois pas en ce que tu peux faire là. Mais et moi, j'aime bien me battre avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est que tu dis, Seigneur, voilà, j'ai une crainte, j'ai une peur. Plutôt que de laisser ta crainte et ta peur prendre une décision qui va être charnellement et intellectuellement acceptable, il faut que tu te battes spirituellement. Et moi, je remettais ce sujet devant Dieu et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Seigneur, je ne peux pas, mais tu comprends. Et je lui expliquais par A plus B que ce n'est pas possible. Je lui expliquais, j'ouvrais mon cœur à Dieu et je disais, non. Et puis lui, il ne me parlait pas parce que moi, j'étais révolté. C'est une révolte intérieure, c'est pas grave, comprenez. Mais c'est mon cœur, il était partagé. Et puis, un jour, je suis sur la route là-bas, juste la route qui monte vers l'appartement. Et puis, je marche et dans mon cœur, je priais. Et je dis, Seigneur, ok, je t'abandonne ça. Et là, j'ai reçu dans mon cœur, comme ça, une promesse. La promesse, elle est arrivée, mais comme ça, dans mon cœur. T'habiteras dans le quartier. Et je me souviens, c'était devant le numéro 22. Que c'est arrivé. Et j'ai levé la tête, j'ai dit, ok Seigneur, j'accepte. Je suis rentré à la maison, Chanel, elle était là, et je lui ai dit, chérie, c'est bon. Elle me dit, bah enfin, t'as accepté. Mais elle pouvait me parler, mais je n'aurais pas accepté, il fallait que Dieu me parle. Mais c'était mon combat avec Dieu. Vous comprenez ça ? Lorsque ta crainte est en prière, elle devient quoi ? Elle appelle les promesses de Dieu, elle change ton attitude, elle change ton cœur. Dieu peut faire quelque chose maintenant dans ta vie. Mais si ta crainte est juste, ben voilà, j'ai peur, je prends une décision tout de suite rapide comme eux, ils ont eu peur, ils ont pris une décision, c'est non. Mais ils sont passés à côté de la volonté de Dieu. Ça va ? On me suit ? Oh, on me suit bien là. Alors, la solution c'est quoi ? Galates 5, verset 16-25, il est très clair, j'en ai déjà parlé, mais au moins on le voit. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. on a bien cette dualité en nous. Dieu t'appelle, il t'appelle, c'est la terre promise. Mais toi, ton corps, il va aller ailleurs. Ça va? Tes pensées veulent aller ailleurs. On parle là, pour l'instant, je ne vous parle que du côté vraiment intellectuel. Mais il faut être comme Caleb, animé par l'Esprit de Dieu. Alors comment? Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. N'attends pas de venir chercher tes réponses à l'église. Ce n'est pas moi qui vais te donner tes réponses, ce n'est pas les pasteurs qui vont te donner tes réponses. Prie. La solution, c'est d'être un homme, une femme de prière. Je ne parle pas de la louange. La louange, rien à voir. La prière. La louange, j'adore Dieu, je l'élève. Là, je parle de la prière, la prière, la prière. Tu vas à Dieu. Et la prière, c'est quoi? C'est j'ouvre mon cœur, Seigneur, je me bats avec toi. Mais je ne comprends pas là. Là, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Et là, tu te bats. Et en fait, Dieu, il va commencer à changer ton cœur. L'Esprit va changer ton cœur. Et à un moment donné, tu vas recevoir une promesse. Et là, tu ne sauras pas quoi. La promesse, ça va être un mot, une parole, une pensée. Il va te parler à sa manière. Mais tu pourras t'appuyer sur ça, même si tu n'auras pas tout vu. Tu seras comme ces espions, tu auras entrevu la terre promise, mais là, il va te mettre une promesse et il va te dire maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends une décision? Est-ce que tu te positionnes? Et ton positionnement va faire que Dieu va agir. Mais si tu ne te positionnes pas, il ne se passera rien. Vous comprenez? Ça marche? 2 Corinthiens 5, verset 17. Troisième point. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour nos Hébreux qui avaient subi l'oppression, les choses anciennes, elles n'étaient pas anciennes. On a un historique. Lorsque tu souffres, le corps il est comme ça. C'est comme un joueur de foot qui va se blesser à la jambe, il va mettre un peu de temps, même s'il est complètement guéri, il va mettre un peu de temps à pouvoir s'appuyer sur sa jambe. Parce que Il y a une crainte, il y a un historique qui se fait dans ta tête. Tu vois, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances du passé, tout ce que tu as pu vivre qui t'a atteint, ça laisse une trace. Mais Dieu, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme nos 10 espions et se retourner vers notre passé en disant « Mais attends, j'ai déjà connu cette situation, dans cette situation, ça s'est mal passé. » C'est dire « Seigneur, maintenant je crois que tu es avec moi, je suis une nouvelle créature, il y a la colonne de feu devant moi. » Vous me suivez? Amen. Alors Jésus, c'est pas juste la vérité et la vie. D'accord? Parfois on l'accepte comme la vérité. Ok, c'est la vie, mais on ne veut pas le chemin. Le chemin est compliqué. Le chemin, il demande un engagement. Donc, t'es la vie, t'es la vérité. Oui, t'es la vérité. Mais je ne m'engage pas parce que je ne veux pas m'engager. Aujourd'hui, ce monde fait tout pour que tu ne t'engages pas. Tes forfaits téléphoniques, le mariage. On s'engage dans très peu de choses. Les gens n'ont quasiment plus de parole. Ils donnent une parole, le lendemain, ils ont oublié. Ça fonctionne, tout va vite. C'est je veux quelque chose tout de suite. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus la notion de « je t'ai fait une promesse, je la tiendrai ». Ça n'existe plus, ça. Vous voyez? Mais Jésus dit « maintenant, tu vas t'engager sur le chemin ». Ça va? Il te touche par la vérité. C'est pour ça qu'on a prié pour que la parole de Dieu touche nos cœurs. Il te touche par la vérité. Il touche ta vie, il transforme ton cœur. Pourquoi? Pour que tu puisses vivre une vie abondante maintenant. Pas demain, maintenant. Tu vives une vie abondante maintenant. Pour aller où? En terre promise. La terre promise, c'est ton salut. Et la vie que tu vis, elle est aujourd'hui. Elle est concrète, ton travail. Seigneur, comment je peux vivre ta faveur? Comment je peux vivre une vie de puissance, d'autorité? Il y a des défis, il y a des Goliaths. Mais moi, je crois que tu es puissant. Il y a le feu qui va tomber. Et des fois, tu es accablé, tu dois résister. Mais à un moment donné, Dieu dit, c'est bon, avance. Vas-y. Il y aura des Goliaths. Il y en a. Des fils d'Anak, il y en a partout. Il y a des montagnes partout dans nos vies. Mais tu dois prendre la décision de dire, Seigneur, sois avec moi. Je ne veux pas être dans mon désert. Sinon, tu suis tes petits plaisirs, tes petits désirs, ta petite vie, ce qui te plaît, ce qui te va bien. Mais tu ne vas pas vers la terre promise. Et à chaque fois, Dieu, une fois que tu as fait ton tour, il te ramène vers la terre promise. Alors, Alex, tu es prêt à prendre une décision maintenant? Tu viens ou tu ne viens pas? Moi, je suis là, je n'ai pas abandonné mes promesses pour toi. Tu veux perdre du temps? 5 ans, 10 ans, 11 ans de ta vie? Ou c'est maintenant? Il n'y a pas de question d'âge, de culture. Il faut tout abandonner à Dieu. Mais cet abandon, c'est la vérité qui provoque en toi. Jésus, tu es la vérité, mais je veux croire maintenant. Et après, tu deviens spectateur de la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand tu deviens spectateur de la gloire de Dieu dans ta vie change. Ça va? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, quelque part, vont accepter ces choses-là, mais ne vont pas prendre de position. Et vont se concentrer sur des choses secondaires de la vie chrétienne. Ils ne vont pas aller chercher leur terre promise à eux, mais ils vont se concentrer sur des choses secondaires. J'ai dit une bêtise, l'aide sociale. Ah, il faut absolument que je fasse de l'aide. Tu vas tout mettre là-dedans. Et Dieu, il t'appelle ailleurs. Ou, voilà, il y aurait plein d'exemples, mais tu deviens un spécialiste. Voilà. Il faut que j'ai une bonne prêche dimanche. Ça va me faire du bien. Mais ta vie, elle n'est pas puissante. Il n'y a pas la main de Dieu. C'est morne. Tu fais que tes choix par toi-même. Ce n'est pas vivre comme un chrétien, ça. Le chrétien, il ne voit pas devant lui. Dieu lui met une promesse et il fonctionne comme ça. Et il dit maintenant, fais un choix et tu vas voir petit à petit. Si tu veux tout calculer, laisse tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, je récapitule. Dieu t'amène aux portes de la terre promise. Il te donne une vision panoramique de ça. Il te confronte face à ton passé, face à tes blessures, face à tes défis, face à tes craintes. Et il dit maintenant, crois-moi, est-ce que tu vas mettre plus d'importance dans tes faiblesses, dans tes peurs, ou tu vas plus croire en moi maintenant? Et là, il veut devenir vraiment ton Seigneur, ton roi. Il veut dominer sur ta vie. Il veut te montrer qu'il est plus puissant que tous les Goliaths. Où que tu viennes, quel que soit ton passé, il veut te montrer qu'il est le roi. Et il te dit, fais-moi confiance. Ça va? Une fois face au Goliath, qu'est-ce qu'on fait? Prière, Seigneur, touche mon cœur, je veux marcher par l'esprit. Et là, Dieu va commencer à faire tomber les Jéricho, les Goliaths. Vous voyez? Ça va? Alors, on va prier un petit peu.